Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Depuis 1993, la journée du 3 mai est consacrée à la célébration de la liberté de la presse. À cette occasion, c'est une émission autour du journalisme, mais aussi du numérique, que nous vous proposons pour parler d'une nouvelle facette du métier de journaliste à l'ère de la désinformation. Grégory Genevrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sur RFI, Radio France Internationale, pour l'émission Les Dessous de l'Infox. Et avec vous à distance, Ilana Soskin, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, à la Cour pénale internationale. Vous intervenez en droit de la presse, e-réputation, IP, IT, pénal. Vous êtes également enseignante en droit de la presse. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des Temps électriques.
Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de dire la vérité.
Et il est de porter la plume dans la plaie. Ces mots qui sonnent comme un mantra pour les journalistes sont ceux d'Albert Londres.
Albert Londres, un nom qui vous dit certainement quelque chose.
Mais oui, vous en avez forcément entendu parler. Journaliste légendaire, il a donné son nom au prix Albert Londres, créé en 1933, un an après sa mort.
Un jury assemblé autour de sa fille décerne à un grand reporter le prix Albert Londres, Goncourt du journalisme.
Commencez par ces mots emblématiques d'Albert Londres, prenant en 1969 cet impératif de quête de la vérité qui doit habiter le journaliste, quitte à porter la plume dans la plaie. Ce n'est évidemment pas anodin pour poser le cadre de la discussion qui occupera notre émission. La profession de journaliste en France est un métier dont le statut est défini par la loi, celle du 29 mars 1935, et voit ses conditions encadrées par le Code du travail aux articles L7111-3 et suivants. Le journaliste, on l'imagine souvent à la lumière des récits le décrivant ou des fictions le mettant en scène. Reporter d'images, webrédacteur, journaliste TV ou encore de radio, le métier de journaliste recouvre des réalités très diverses. Mais quel que soit le média, papier ou web, la quête de la vérité est au cœur de sa mission, ce qui suscite souvent des discussions sur la possibilité d'une objectivité journalistique. Quoi qu'il en soit, pour reprendre les termes du sociologue Éric Neveu, chaque société, chaque civilisation valorise des personnages, des rôles sociaux qui la condensent, du chevalier médiéval à l'ouvrier de la révolution industrielle au bureaucrate weberien, symbole de la rationalité moderne. Rien d'étonnant donc, dès lors, disait-il, à ce que dans une société souvent dite de communication ou d'information, le journaliste soit devenu une figure structurante des mythologies contemporaines. Dans cette société de communication, le journaliste est à présent confronté à des difficultés inhérentes de l'ère numérique qui bouleversent son activité. Alors que la viralité de la désinformation en ligne s'intensifie, qu'émergent sempiternellement théories du complot, fake news, la manipulation de l'information devient un défi majeur pour le journaliste. Pour se réapproprier la vérité, le numérique devient une aide précieuse grâce à de nouvelles techniques d'investigation numérique. Parmi elles, l'OSINT, méthode de recherche de renseignements en source ouverte. Mais alors de quoi s'agit-il concrètement? On en parle dans un instant avec nos invités.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité...
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lit se glissent des scies. Superposition de supposition, ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Donnez-moi de l'information.
Ouais, c'est ça, les...
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter, sauf publicité. On se retrouve après ça. Mélangeons tout, tirons la chasse. Papier water, l'auditeur. Coup de Trafalgar, des voitures de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. Chirurgical, opération boursière, bancaire, comptage de morts qui monte et sort de l'audimat. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, des révélations impromptues pour mon prompteur abattu,
des débats animés,
pleins de manies et de tics
journalistiques,
manichéens
et deux,
et trois,
passant à l'heure,
on se contente actif
d'un flot de superlatifs.
À chaque instant son plus ceci, et chacun veut son plus cela, et tous pour un et tous pourris, on simplifie, ça amplifie. Édition spéciale, édition spéciale, une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu. Mais moi j'ai tout entendu, oui tout entendu, oui 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 moi j'ai tout entendu. Entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information.
Et d'abord les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée côté météo en tout cas.
Dans cette chanson du groupe de rock français Les Acrobates, le devoir du journaliste est avant tout de donner de l'information fidèle et récente. Alors Grégory Genevrier, pour débuter, question simple ou pas, je ne sais pas, le métier de journaliste, est-ce que en effet c'est cela ou est-ce que c'est plus encore? Comment vous le résumeriez?
C'est pas une question facile, mais je dirais que c'est plus encore. Je reviendrai déjà sur le terme de quête de la vérité, de quête de la réalité, je dirais plus non.
Quête de la vérité.
Quête de la vérité, je dirais plus qu'on est dans la quête de la réalité. Oui. Je pense que le métier de journaliste, c'est d'abord et avant tout de rapporter des faits, d'aller sur le terrain. Alors, on en parlera tout à l'heure, le terrain peut être aussi numérique, mais en tout cas de ramener des informations, d'informer les publics de différentes manières que ce soit en télé, en presse écrite ou en radio. Et il y a toujours cette question, je pense, est-ce que les journalistes sont objectifs? C'est un petit peu lié à la vérité. Alors, je pense qu'honnêtement, un journaliste ne peut pas être objectif, déjà, rien que dans le sens où quand on choisit un sujet, une thématique, un titre, on n'est pas objectif. On est journaliste, on est tous des citoyens, on a des sensibilités, des vécus, on a plusieurs opinions. On ne peut pas se détacher totalement du sujet qu'on traite. Je pense que le plus important, c'est l'honnêteté. Quand on part sur le terrain, quand on ramène des faits, quand on informe le public, il faut qu'on rapporte les faits tels qu'on les a vus, tels qu'on les a vécus. Donc j'opposerais l'objectivité et l'honnêteté, ça c'est la première partie. Et ensuite, sur comment est-ce qu'on informe les citoyens, aujourd'hui il y a différentes manières, et le numérique prend une part prépondérante, je pense, quand même. Et notre métier, je reviens sur la citation d'Albert Londres, je pense que notre métier fait partie de ces métiers qui sont importants pour la démocratie. On le voit dans les régimes autoritaires, la première chose qu'on fait quand on veut installer un pouvoir autoritaire, on s'attaque à l'information libre, sourcée et vérifiée. Donc c'est quand même un métier, comme beaucoup, mais un métier très important aujourd'hui.
Alors, ce dont on va parler, effectivement, ensemble, c'est de la question de la désinformation en ligne. C'est un enjeu qui est désormais mondial. On peut prendre la question par une résolution de décembre 2021 dans laquelle l'ONU s'est déclarée préoccupée par la prolifération de la désinformation. Alors que la mésinformation fait référence plutôt à la diffusion accidentelle d'informations inexactes, la désinformation, non seulement c'est inexact, mais ça vise principalement à tromper et c'est diffusé dans le but de causer un préjudice grave. Et comme l'ONU le soulignait, cette désinformation, elle peut être diffusée par des acteurs étatiques, non étatiques, elle peut affecter un vaste éventail de droits fondamentaux, saper la réponse des politiques publiques ou encore amplifier les tensions en période d'urgence ou de conflit armé. Pour lutter contre ce phénomène, la première difficulté sans doute, c'est qu'il n'y a pas de définition universellement acceptée de la désinformation et que même aucune définition ne pourrait se suffire en soi, tant les contextes dans lesquels la désinformation est utilisée, peut survenir, sont variés et complexes, que ce soit dans les processus électoraux, la santé publique, les conflits armés, les changements climatiques pardon, ou autres. Bref, Ilana Soskin, si on parle des informations ensemble et qu'on l'associe au droit, le droit, comment appréhende-t-il cette notion ?
Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une société d'équilibre, dans un système judiciaire où ce qui est recherché, c'est l'équilibre. Donc, il y a d'un côté, ce qui est très important, c'est la liberté d'expression, le fait qu'on doit protéger la libre parole, la libre pensée, ne pas censurer les idées, ne pas censurer les pensées, même celles qui choquent, même celles qui heurtent. Et aussi, on a un objectif de lutter contre les théories haineuses, contre la haine en ligne et aussi contre la propagation des fake news ou des désinformations qui nuisent gravement à notre société. Donc en fait, le juge et la loi, avant même le juge, va essayer de faire respecter cet équilibre. La désinformation en tant que telle, elle est très peu réprimée. Elle est réprimée accessoirement par le mécanisme d'autres dispositions, par exemple la diffamation. Dès lors qu'il y aura des propos diffamatoires et qu'ils vont intégrer une théorie complotiste, une fake news, ils pourront entrer sous le coup de la loi. C'est la même chose pour l'injure. Donc les infractions classiques, l'atteinte à la vie privée, je pourrais revenir sur des exemples, quand il y a une théorie complotiste, une fake news qui porte atteinte à la vie privée, elle va pouvoir être sanctionnée via le mécanisme judiciaire un peu de droit commun qui prime. Et puis c'est le cas aussi quand les propos sont des fake news à connotation antisémite, à connotation raciste ou homophobe. Dans ce cas-là, on va avoir les infractions principales qui vont permettre de l'appréhender. En tant que tel, il y a assez peu de dispositions qui répriment spécifiquement les fake news ou les théories complotistes. On a un vieux délit qui est le délit de fausse nouvelle qui est intégré à la loi sur la presse, qui n'est quasiment jamais utilisé parce qu'il faut démontrer une mise en péril de la société, quelque chose de majeur, voilà, des gens qui vont prendre les armes pour renverser la société, et donc c'est quasiment jamais utilisé. Et il y a depuis 2018 des dispositions propres à la période électorale où le juge des référés va pouvoir, en cas de propagation, dans le cadre d'un scrutin de fausses informations, va pouvoir ordonner le retrait des contenus qui vont nuire à l'élection et au scrutin.
On a effectivement un constat, il y a un arsenal de textes. Après, dans l'application, si on vous suit, il y a peu d'usages qui en sont faits. Parallèlement, on a des obligations quand même qui se renforcent. Je pense à la question des plateformes et des obligations qu'elles ont désormais vis-à-vis de ces fausses informations et des contenus qui sont diffusés et relayés, parce qu'il y a une question de viralité qui est importante sur les réseaux. Comment les plateformes sont tenues vis-à-vis des informations qui s'y diffusent, les obligations qui sont les leurs aujourd'hui, c'est quoi ?
Alors, d'abord, juste pour être plus clair sur la première question, il n'y a pas peu d'usages. Ce n'est pas parce qu'il y a peu d'articles spécifiques à la répression des fake news et des théories complotistes qu'il n'y a pas d'usage. J'ai de très nombreux dossiers, qu'il s'agisse de procès contre des théories antisémites, complotistes ou alors des procès en diffamation et en injure qui permettent de sanctionner les fake news par le biais de la diffamation, de l'injure, de la diffamation raciale, de la provocation à la haine raciale. Donc, il y a peu de textes spécifiques, mais il y a des moyens, dès lors que ça constitue un délit annexe, de les poursuivre. C'est quand même important.
D'accord.
C'est pas quelque chose qui est de libre parcours, tout en gardant à l'esprit qu'il faut trouver un équilibre sur le respect de l'opinion et des idées. Les plateformes sont de plus en plus soumises en effet à des obligations, notamment depuis la mise en place du Digital Service Act, qui est appelé le DSA. Donc elles ont des obligations de transparence, elles ont des obligations de rendre compte de quelles sont l'influence de ces théories. Elles ont, voilà, et il y a évidemment la Commission européenne qui dirige des enquêtes, qui surveille que les plateformes, qui sont évidemment un support colossal de propagation des fake news et des théories complotistes, veillent à lutter contre ces théories haineuses.
Et alors par rapport à ça, Grégory Genefrier, alors peut-être vous voulez réagir à ce qui a été dit, mais au-delà, vous, votre travail de journaliste, comment il s'articule avec ça? Parce que vous allez utiliser un certain nombre de méthodes pour de même investiguer sur ces informations qui circulent au contenu douteux. Et il y a notamment une méthode particulière dont vous allez nous parler, qui est la question de l'OSINT. Mais comment votre travail s'articule avec ces obligations légales et ces enjeux qui ont été présentés?
Je pense que déjà, ce sentiment d'impunité sur les réseaux sociaux, nous on le constate au quotidien. Tout le monde pense que diffuser une fausse information aujourd'hui, c'est pas grave, ou on ne pourrait pas être puni par la loi. Et sinon, nous, la problématique qu'on a aujourd'hui, à chaque fois qu'on traite de la désinformation, c'est toujours le phénomène d'attribution. C'est-à-dire qu'on voit la fausse information circuler, on est capable de dire qui la diffuse, qui la propage, mais on est rarement capable de dire qui la diffuse en premier. C'est très difficile d'investiguer pour savoir qui est derrière, parce qu'on se retrouve souvent avec des fausses informations qui font des dizaines de millions de vues sur TikTok, puis sur Twitter, puis sur Facebook, puis sur Instagram, etc. Et remonter à la première occurrence avec certitude et savoir qui est derrière le compte en question, c'est très difficile. Nous, honnêtement, avec on va l'aborder, mais avec les outils en source ouverte dont on dispose, on n'est pas capable souvent de dire qui est derrière. On peut attribuer les grosses campagnes de manipulation de l'information. On a déjà documenté des campagnes de désinformation pro-russe, des campagnes de désinformation pro-azerbaïdjanaise, au Sahel, en France, peu importe. Mais nommer un acteur pour potentiellement permettre à certains de pouvoir déposer plainte, j'imagine, ou d'attribuer précisément une campagne, ça, nous, en tant que journalistes, déjà, on considère que ce n'est pas forcément notre rôle. Et en plus, les outils dont on dispose nous permettent très rarement de pouvoir le faire.
Alors avant que vous nous expliquiez la question de l'OSINT, Ilana, peut-être, est-ce que vous voulez réagir sur cette question de la difficulté à déterminer le responsable et dans la chaîne de causalité, la personne à l'origine des choses? Est-ce que vous voulez réagir là-dessus?
Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver qui est la personne à l'origine des propos, mais dès lors que quelqu'un tient des propos qui sont de nature qualifiable, soit parce qu'il les indique sur son site internet, soit parce qu'il les diffuse via Twitter ou via X ou via un quelconque support, cette personne peut être poursuivie. Donc oui, c'est évidemment éminemment compliqué de remonter vers la source, mais ça ne veut pas dire que les propos restent impunis. Ça ne veut pas dire que voilà, tout peut se propager. À un moment, on peut décider de mettre un terme à ces propos et de les faire sanctionner judiciairement, même si on n'a pas le responsable de la source.
Alors, merci pour l'éclairage. Du coup, Grégory, l'OSINT, c'est quoi là-dedans? Comment on se sert de l'OSINT?
Déjà, il faut définir ce que c'est l'OSINT. Ce n'est pas une question facile. Nous, on voit l'OSINT comme une méthode de collecte d'informations en source ouverte qui vont nous permettre ensuite soit de documenter des faits, de raconter une histoire, d'investiguer sur un phénomène ou, la plupart du temps chez nous en tout cas, de vérifier des informations. L'OSINT, c'est un petit peu une... Alors nous, on utilise plutôt Roseau pour renseignement d'origine source ouverte.
Ouais, oui, il y a les deux termes.
En français, il y a les deux termes. C'est un petit peu une bataille d'acronymes. Mais nous, on voit ça comme une espèce de boîte à outils gigantesque avec différents outils qui vont nous permettre de retracer l'origine d'une image, d'une vidéo, de pouvoir consulter des images satellites, d'analyser tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, d'aller chercher des photos qui sont publiées au fin fond d'un blog, mais qui vont nous permettre de retracer une histoire qu'on n'arrive pas à raconter autrement. Voilà, c'est vraiment une boîte à outils. Moi, je le définis à la fois comme une méthode et à la fois comme une boîte à outils, tout en pensant que nous, on a une contrainte, c'est qu'on est journaliste. On n'est pas OSINTeur, comme certains se le déclarent sur Twitter, où ils peuvent se permettre de balancer des informations par-ci, par-là. Nous, quand on traite quelque chose, on doit en être sûr et certain à 100%. Donc, y a énormément d'informations qu'on ne sort pas, parce que grâce à l'OSINT, on arrive à un certain stade, on est sûr à 98% de ce qu'on peut dire, mais on ne va pas le dire parce qu'il nous manque les 2%. Donc,
vos contraintes, on va en parler, parce qu'effectivement, il y a des contraintes tant matérielles que juridiques, en fait, qui pèsent sur vous et le statut qui est le vôtre en tant que journaliste. Sur l'aspect matériel des choses, pour bien comprendre et illustrer ce dont il est question, est-ce que vous pouvez par exemple prendre un cas concret dans lequel ça vous a été utile? Quel est votre cheminement, vous, en tant que journaliste? Vous partez de quoi? Est-ce que c'est vous qui trouvez une source dont le contenu vous l'estimez douteux? Comment fonctionne finalement votre travail par rapport à ça?
Alors si je prends un exemple qui ne serait pas du fact-checking, mais qui serait un exemple d'OSINT pur. Souvent, ça part d'une image, d'une vidéo ou d'un témoignage qu'on nous envoie sur les réseaux sociaux en nous disant « Tiens, j'ai vu ça, est-ce que vous pouvez vérifier ou éclaircir la situation ?» n'y a pas longtemps, au mois de janvier, en début d'année, on a eu un cas où il y a une vidéo qui circulait au Mali, où on avait des centaines de véhicules militaires qui étaient transportés sur des transporteurs, en plein milieu de Bamako. Des auditeurs maliens nous contactent et nous disent « Voilà, j'ai vu cette vidéo, à qui ça va? C'est vrai? C'est faux? C'est daté? Comment ça se passe ?» Donc nous, on s'est mis à enquêter entre guillemets numériquement là-dessus, sachant qu'au Mali, on n'a pas de journaliste sur place, donc c'est compliqué. On a d'abord géolocalisé l'image, donc on a utilisé des outils de cartographie en ligne. Je pense à Google Maps, Yandex Maps, OpenStreetMap, il en existe plein. Donc on a d'abord géolocalisé ces images. On a réussi à les dater, donc déjà on avait au moins l'authenticité de ce contenu-là. Donc l'auditeur était content qu'on puisse déjà lui apporter ces informations, mais nous on s'est dit, tiens, il y a peut-être une belle histoire à raconter si on va plus loin. Donc on a cherché à savoir d'où venait ce matériel militaire. On s'est dit déjà, il y avait à peu près une centaine de véhicules. Si c'était venu par les airs, on aurait peut-être été au courant. Il y aurait eu beaucoup d'avions de transport qui seraient passés par là. Donc on s'est dit, tiens, si ça venait pas par la mer. Le Mali, il n'y a pas d'accès à la mer. Donc on s'est dit, d'où est-ce que ça pourrait venir? Grâce à notre géolocalisation, on savait que le matériel avait été vu sur une route qui s'appelle la route de Guinée. La Guinée, il y a un accès à la mer. Donc on s'est dit, est-ce que ce matériel ne serait pas arrivé par la mer au port, dans un port de Guinée, potentiellement le port de Conakry? Grâce encore une fois aux outils qui sont librement accessibles en ligne, on est allé voir les bateaux qui est arrivé les semaines précédentes dans le port de Conakry et on est tombé sur deux navires russes sous sanctions internationales qui sont connus défavorablement pour transporter du matériel militaire. Fallait-il un élément pour qu'on puisse prouver le lien de causalité? Donc on a cherché ces éléments-là en cherchant des témoignages sur les réseaux sociaux, sur des témoignages locaux, parce que l'OSINT, on a souvent tendance à se perdre dans la technique, mais l'humain reste aussi très important, nous on a un réseau de correspondants partout dans le monde, il faut s'en servir. Et on a fini par avoir des images satellites qui montraient bel et bien le convoi dans les rues de Guinée. Donc on a pu retracer tout le parcours de ce convoi, donc dire que ce sont des armes qui provenaient de Russie, qui sont arrivées en Guinée pour être amenées jusqu'au Mali, et ensuite, la fin de l'histoire, c'est qu'on sait que ces matériels militaires ont été vus dans le camp utilisé par Wagner à Bamako. Donc on était capable de raconter toute l'histoire, mais tout est parti d'une vidéo qu'on nous a envoyée sur les réseaux sociaux en nous disant est-ce que cette vidéo est authentique, qu'est-ce qu'elle montre et qu'est-ce qu'on en sait.
Donc voilà le cheminement. Alors il y a un choix aussi dans les vidéos, j'imagine que vous devez faire.
Il y a un choix dans les vidéos, il y a aussi un travail de veille. Là je prends un exemple, on a reçu une vidéo d'un auditeur, mais nous notre travail de veille... on veille quotidiennement sur les réseaux sociaux et dès qu'on voit une image, un témoignage ou quelque chose qui nous paraît étrange, on va essayer de... C'est un peu une ficelle qu'on tire en fait avec les différents outils ensuite qu'on a à notre disposition. Et on essaye de tirer la ficelle. Parfois, ça ne mérite pas forcément d'en faire un sujet à l'antenne ou sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Et parfois, on se dit, tiens, il y a une belle histoire à raconter et on va le raconter grâce aux outils d'OSINT.
Alors ça, c'est l'aspect matériel. C'est l'aspect matériel et vous évoquez dans le même temps des contraintes, évidemment, des contraintes liées à des bornes juridiques. Alors, la question, elle renvoie quand même évidemment à l'aspect de la loyauté dans l'accès à ces informations. C'est un sujet dont on va pouvoir parler maintenant. Le simple terme OSINT, finalement, c'est un terme qui est quand même issu de la culture du renseignement et c'est un terme qui en soi questionne les praticiens. Et si l'enquête du journalisme est plutôt réactive, voire proactive, selon l'angle que vous prenez, on peut faire un parallèle avec des contraintes qui pèsent dans la recherche des preuves dans le cadre ne serait-ce que de l'enquête en matière pénale. Et on sait, particulièrement en matière pénale, donc, que la loyauté, c'est une notion importante pour l'officier public qui contraint son action pour le faire respecter un ensemble de règles dans la droiture du comportement, finalement. Alors le journaliste, lui, il a, je crois, des règles spécifiques aussi qui sont propres, évidemment, à cette profession et qui, dans un certain nomme de chartes, nomme cette question de la loyauté. Donc, il n'y a pas de contrainte légale. Le journaliste, il a un statut comme le particulier, finalement. On n'a pas cette analogie avec l'officier public, évidemment, en procédure pénale. Mais on nomme quand même la question de la loyauté. Alors, quelle est votre contrainte au regard de cette loyauté et en quoi ça peut brider votre façon d'agir?
Alors oui, parce que nous, on a l'interdiction d'utiliser des méthodes déloyales pour collecter des documents, des informations,
voilà, ça,
des photos,
c'est issu d'une charte, la charte du journalisme.
Exactement, c'est le code qui régit notre profession, c'est ce qui fait aussi notre spécificité. Et ça, comment est-ce que ça se concrétise dans l'OSINT comparé à un OSINTer lambda qui pourrait se permettre tout et n'importe quoi, par exemple, nous, on ne va pas se créer de fausse identité pour contacter quelqu'un et obtenir des informations. Ça, c'est quelque chose qu'on s'interdit. On n'a pas de faux comptes Facebook, faux comptes Twitter qui vont nous permettre de contacter des gens au fin fond d'un pays pour leur demander des questions. Enfin, par exemple, sur ce convoi militaire, on n'a pas contacté des Guinéens avec un faux compte en leur disant « Ah, est-ce que vous auriez vu un convoi militaire passer dans la rue d'à côté ?» Ça, on se l'interdit. Idem sur toutes les bases de données volées qui circulent sur le web ou sur le dark web. On s'interdit d'y avoir accès. Pourtant, parfois, ça pourrait nous être utile pour obtenir des renseignements sur des comptes Facebook, etc. Ça, on se l'interdit. On considère que c'est du recel de bases de données volées. Donc
ce qu'on appelle les leaks.
Exactement, tous ces leaks. Nous, en tout cas, dans la cellule InfoVérif de RFI, on s'interdit de les utiliser. C'est ce qui fait que parfois certains nous disent « Ah ben, mais pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin que tel compte Twitter qui a publié tout un fil en racontant comment il a obtenu cette information ?» Bah, tout simplement parce que nous, on a une charte déontologique et qu'on peut pas aller aussi loin que certains le peuvent sur toutes ces questions de loyauté. Donc on s'interdit beaucoup de choses tout en restant vigilant aussi sur les... Il y a quand même la question des outils qu'on utilise, c'est des outils privés. À quel point est-ce qu'on renseigne les sujets sur lesquels on travaille, à quel point est-ce qu'on peut faire confiance aux images qu'on obtient. Moi, je me suis toujours posé la question sur une image satellite qu'on obtient, que ce soit une boîte privée ou une boîte publique qui nous envoie une image satellite, à quel point est-ce qu'on peut s'assurer que cette image n'a pas été modifiée ?
Oui, à quel point elle-même ne peut pas faire l'objet d'un...
À quel point est-ce qu'on n'essaye pas de nous orienter en nous donnant certaines images et pas d'autres, etc. Donc, c'est pour ça qu'on essaye toujours d'utiliser des outils qu'on peut croiser pour être sûr qu'on ne se fait pas avoir par les outils. Quelque chose qui est très important. Et quand on peut recouper l'information avec du renseignement, c'est pas le bon terme, avec de l'information humaine, des gens qu'on a sur le terrain, on priorise quand même le terrain à l'OSINT. On estime que c'est complémentaire, mais s'il faudrait prioriser quelque chose, ça reste aujourd'hui le terrain. Parce que notre métier, c'est de rapporter de l'information. Et l'information provient avant tout du terrain, avant de provenir du numérique.
Alors Ilana, on peut rejoindre la question du contentieux qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ce type de preuves, là, les preuves OSINT dont on parle, peuvent contribuer, dans une certaine mesure, à faire évoluer le contentieux sur ces questions ?
Alors, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, la preuve est libre. Moi, je préconise toujours d'avoir des constats d'huissier pour s'assurer qu'on a bien une matérialité des faits sur Internet. Après, la preuve reste libre. Il faut garder en mémoire quelque chose d'assez spécifique, c'est qu'il y a un principe fondamental, c'est le secret des sources. Donc, quand on veut remonter une source, il faudra faire attention, évidemment, à toujours respecter le secret des sources quand des journalistes travaillent et pas aller compromettre une éventuelle source qui aurait transmis des informations. Donc, dans les procédures, on se sert parfois de preuves qui sont un peu plus compliquées, de conversations qu'on a trouvées sur Telegram, de choses comme ça. Et le juge apprécie en fonction il s'assure que ce sont bien des preuves loyales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été trafiquées, que les adresses Internet ne sont pas modifiées, que les propos ne sont pas biffés. Et puis après, le juge apprécie la nature des preuves qu'on rapporte.
Et d'ailleurs, est-ce que vous aussi, vous avez éventuellement des exemples d'affaires dans lesquelles vous avez pu observer cette tension entre désinformation et en même temps liberté d'information qui doit être garantie, finalement ?
Alors, j'ai envie de dire tout le temps. C'est le lot de mes procès à la 17e chambre que de mettre en balance des idées qui heurtent, qui choquent, des informations et la nécessaire protection de la réputation de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui serait altérée qui serait entachée via des informations qui lui porteraient atteinte. Donc j'ai envie évidemment vous donner des exemples de procédures que j'ai eues avec des théories complotistes ou des fake news, mais cette tension entre la liberté d'information et l'atteinte qu'il faut réparer individuelle, c'est le lot quotidien de mes procès devant la 17e chambre.
Et vous pensez qu'en rapportant une preuve, alors vous évoquez effectivement la volonté d'inciter à l'emploi, puisque la preuve est libre, d'un maximum d'informations et de méthodes possibles, en la laissant à la libre appréciation du juge, vous le rappelez, vous pensez que ce type de preuve, très concrètement l'OSINT, serait à même de convaincre les juridictions dans lesquelles vous avez pu soutenir... plaider sur ces questions liées à la désinformation, est-ce qu'on est prêt à recevoir déjà en juridiction ce type de preuves ?
Je pense qu'il faut un faisceau d'indices, qu'il faut recouper les informations, voir si elles sont fiables. Ce n'est pas un élément et une preuve qui va déterminer l'issue d'un procès. Il va falloir construire, corroborer, prendre des témoins. Voilà, on ne juge pas uniquement sur une pièce en général. Il faut tout un panel de documents, d'éléments, et parmi elles ou parmi eux pourraient être inclus des preuves OSINT.
Alors concrètement, en termes d'affaires, qu'est-ce que vous pourriez présenter qui illustre cette fameuse tension ?
Alors, qui illustre les théories complotistes. D'abord, j'ai eu plusieurs affaires d'infractions raciales et de propos antisémites qui reposaient sur des théories complotistes. Par exemple, on a eu une procédure contre Alain Soral qui disait « Tout est juif dans le 11 septembre ». On voit bien qu'il part d'une théorie complotiste, que la tour aurait été assurée. Donc, il y a toujours une base de faits à laquelle on essaye de se raccrocher. Et il en tire des conclusions pour tenir des propos antisémites en prétendant que le 11 septembre serait la faute du Mossad, un complot, et que tout serait juif dans le 11 septembre. Il a eu les mêmes propos après sur l'incendie de Notre-Dame. Il y a beaucoup de dossiers antisémites qui reposent sur des théories du complot, qui reposent sur des théories complotistes, qu'on doit à la fois démonter en termes de... pas de véracité, j'aime pas du tout le mot vérité, mais en termes de construction de fausses histoires, et aussi y trouver les composantes antisémites ou racistes dans ses propos. J'ai aussi eu beaucoup de procès dans le sens inverse, c'est-à-dire que je défends une personne connue pour lutter contre les théories du complot, en l'occurrence Rudi Reichstadt, c'est de notoriété publique, qui dirige Conspiracy Watch. Et dès lors qu'il désigne quelqu'un comme étant potentiellement un complotiste, et ce qui est la plupart du temps vrai, lui-même est poursuivi pour injure ou pour diffamation. Et donc c'est dans ces procès qu'on doit démontrer que les théories que cette personne a tenues sont de nature complotiste, ont des ressorts complotistes, et pour justement défendre les accusations pour lesquelles il est poursuivi. Donc je ne peux pas vous dire combien, mais j'ai certainement eu une dizaine, une quinzaine de procès ces dernières années avec des théories complotistes, soit à démonter, soit à expliquer, soit à démontrer pour pouvoir justement qu'on puisse avancer. Les juges sont très sensibles au fait que ça nuit à la société, que ces théories complotistes peuvent avoir des conséquences dramatiques. Les théories anti-vax, les théories qui touchent au groupe de personnes, et ils sont en général assez à l'écoute, assez sensibles au fait qu'on explique les ressorts des théories complotistes, comment elles sont construites, d'où elles viennent, quels sont les tenants et les aboutissants et les conséquences pour notre société.
Alors Grégory, c'est aussi des thèmes sur lesquels vous avez pu par ailleurs travailler. Est-ce que vous voulez réagir déjà à ces propos ?
Oui, je dirais que déjà le problème qu'on a avec le complotisme aujourd'hui, nous en tout cas dans notre travail de journaliste, c'est que la plupart du temps, c'est un mélange de faits réels qui sont mélangés avec du faux. Il y a toujours une once de vérité dans un ensemble de faux, c'est ce qui permet à tous ces récits de fonctionner. Mais souvent, ils sont suffisamment intelligents pour faire en sorte que nous, factuellement, ce soit quasiment impossible à vérifier, en fait. Est-ce que c'est le Mossad qui est à l'origine des attentats ? Factuellement, comment est-ce que nous, on peut donner des arguments pour prouver que c'est faux ? Voilà, en fait, on construit un narratif. Eux, ça leur prend 10 secondes à inventer quelque chose comme ça. Et nous, de l'autre côté de la vérification, c'est quasiment impossible. On dit toujours que le mensonge prend l'ascenseur et que la vérité prend l'escalier. Et nous, face à ces discours-là, on a toujours une problématique qui est que factuellement, c'est très difficile à démonter. Et on nous dit « Ah, vous avez vu cette théorie, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose dessus ?» Eh bien oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, nous, on a des contraintes journalistiques, mais quand je fais un papier radio d'une minute dans un journal à 15h, comment est-ce qu'en une minute, je peux... démystifier une telle théorie. Donc ça, on essaie d'y revenir avec des invités sur la longueur, où on peut vraiment expliquer le phénomène, comprendre le complotisme, comment ça fonctionne. C'est un petit peu comme un phénomène sectaire, en fait. Comment est-ce que les gens adhèrent à ces théories ? Il y a toute une explication qui est intéressante. Mais factuellement, faire un article web juste sur la question, c'est très, très, très compliqué.
Sur le mensonge, on a eu une belle émission le mois dernier, sur le lien vérité-mensonge, effectivement, et toute sa complexité. Alors, une fois qu'on a prouvé malgré tout qu'une information était fausse, si tant est qu'on y arrive, est-ce que le dénoncer sur un site suffit face à cette propagande, ou est-ce qu'il y a, il y a d'autres mécanismes au niveau journalistique qui peuvent aider et prendre le relais, appuyer ? Est-ce qu'il y a des mécanismes, par exemple, inter-rédaction ? Je pense à une espèce de coopération interne, internationale. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que, par exemple, il n'y avait pas de journaliste sur place dans l'affaire que vous évoquiez. Comment on crédibilise finalement la découverte de l'infox ?
Alors déjà, il y a des partenariats qui se mettent en place. En tout cas, il y a vraiment un effort là-dessus, notamment par exemple au niveau des médias de service public, où on essaye de se rassembler pour sortir des enquêtes. Récemment, il y a eu une enquête sur l'ensemble des tweets d'Elon Musk et à quel point est-ce que Elon Musk a été actif dans la désinformation aux États-Unis, mais pas que, en Europe, pour les élections en Allemagne, etc. Donc il y a un effort collectif pour se rassembler, mais je pense que, honnêtement, et c'est pas pour dénigrer le travail qu'on fait, mais on vide un petit peu l'océan à la petite cuillère. L'article de fact-checking qu'on fait à posteriori, parce qu'on arrive toujours après la désinformation, une infox qui a fait 10 millions de vues sur les réseaux sociaux, moi si j'en fais un article ne serait-ce que deux jours après, ça veut dire quand même que j'ai été réactif, parce qu'il faut l'avoir, il faut avoir le temps de vérifier, parfois ça prend du temps. L'article que je vais faire, il va pas faire 10 millions de vues. Ça c'est sûr et certain. Donc on arrive tard, on est moins vu, et faut-il que les gens nous croient? C'est aussi la problématique. On sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne croient plus aujourd'hui en la presse. Et Lozine, je pense, est une bonne réponse là-dessus, parce que tous les outils qu'on utilise, on fait en sorte de les citer, d'expliquer comment ils fonctionnent. Comme ça, le but, c'est que quelqu'un qui voit un article de fact-checking produit aujourd'hui par notre cellule InfoVérif à RFI, il dit « Bon, moi, je ne crois pas à RFI, mais je vais refaire la démarche. » Eh bien, on essaie de lui rendre possible ce travail-là pour qu'en fait, à la fin, il se rende compte que ce n'est pas Grégory Genevrier de RFI qui m'affirme que ça, c'est faux. C'est les faits qui montrent que ça, c'est faux. Et les faits, on les obtient en utilisant tel et tel et tel outil. Donc ça, c'est vraiment une démarche de transparence sur laquelle on insiste aujourd'hui. Mais c'est pas que je suis désespéré, mais je pense que le fact-checking, c'est une brique d'un mur qu'il faut construire. Et ça passe aussi par l'éducation aux médias et à l'information, le développement de l'esprit critique dans les écoles. Mais le fait que les médias puissent se rassembler, il faudrait des initiatives communes. Il y en a pour les élections, on voit ça pour les grands événements. Mais il faudrait peut-être que ça se démultiplie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans les rédactions, alors on voit que les cellules de fact-checking s'agrandissent petit à petit, mais il faut que ce phénomène continue. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de fact-checkers comparé au nombre de journalistes. En tout cas, c'est mon opinion. Donc, il faut vraiment développer ça, sachant que les autres journalistes qui ne sont pas fact-checkers vérifient leur information et rapportent de l'information. Et l'information permet de lutter contre la désinformation dans tous les cas. Donc, voilà. Mais il faut renforcer toutes ces cellules de fact-checking et aussi leur donner de la visibilité. Ça passe par la mise en forme des contenus sur les réseaux sociaux, tous ces produits-là.
En tout cas, cet impératif de traçabilité et de transparence que vous évoquez, bah, finalement, rejoint aussi cette nécessité qu'il y a dans un contentieux, comme vous l'évoquiez, Ilana Soskin, de pouvoir assurer finalement l'origine de la preuve qu'on produit pour emporter la conviction finalement du magistrat qui est en face. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange.
La bombe, bébé. Quand j'étais petit, on m'appelait rapporteur. J'ai tant aimé l'idée que je suis devenu reporter. Un jour, mon chef de rubrique m'a dit: tu seras notre envoyé spécial là-bas au paradis. J'ai vu que du bonheur et puis des lacs bleutés. À chaque paysage, je disais quelle beauté. Des filles se promènent accompagnées de leurs licornes. De nouvelles modes sans se soucier de leur forme. Sur la terre, je faisais des bidonnages réels scoop. Une sauterelle devenait kangourou grâce à ma loupe. J'avais pris le parti d'être jugé parti. Publication judiciaire, et puis c'était reparti. Mais là, je veux pas troubler cet idéal. L'homme et l'animal, la femelle et le mâle flottent sur le bonheur. Parce qu'ici y a pas de peine, c'est pas la jungle urbaine, non. C'est le jardin d'Éden. Pas de peine, pas de haine, c'est le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden. Sinon j'ai le calife et j'ai l'encure, le meurtre au paradis. Pas de peine, pas de peine, c'est le jardin d'Éden. Je cueille une fleur transparente avec des reflets d'or. Des gosses font des ricochets tandis que d'autres pratiquent le sport. Tout semble romantique dans ce tableau d'osmose. Ou sensuel comme cette brune avec des yeux roses. Ici y'a pas de guerre, on n'est pas sur la terre. On ne croise pas le fer, on expulse les nérons. Y'a pas de yin que de yang, pas de gang ni d'arang. Navigue avec le flot sinon Dieu te coupe la langue. On prête le prêche au prêtre, le pêcheur et l'oppresseur. La septième prophétie peut-être comme le rouleau compresseur. Si les plages et les sources sont pas pleines de goudron. Pas de course à la bourse, pas de course au pognon. Y'a des montagnes magnifiques avec des neiges éternelles. Le respect de la nature tient une place surréel, c'est un peu comme l'auberge du boulot blanc. L'île de Sentinelle, le tout dans le beau temps. Article censuré, pas assez sensationnel. Je redeviens freelance, le monde est beau, la terre est belle. J'ai gardé tes photos, jardin d'Éden, je t'aime. Je rends ma carte de presse, trois petits points, F-I-N. Pas de peine, pas de haine, c'est le jardin d'Éden.
Sinon j'ai le calife et j'ai l'encure, le meurtre au paradis.
Pas de peine, pas de peine, c'est le jardin d'Éden.
Sinon
termine cette émission sur ces notes d'MC Solar et ce morceau Jardin d'Éden. Pour conclure cet échange, je vous propose de vous replonger en 1894 avec cette lecture issue du texte d'Émile Zola, Essai sur le journalisme.
Ah, cette presse, que de mal on en dit. Il est certain que, depuis une trentaine d'années, elle évolue avec une rapidité extrême. Les changements sont complets et formidables. Il n'y a qu'à comparer les journaux des premiers temps du Second Empire, muselés, relativement rares, d'allure doctrinaire, aux journaux débordants d'aujourd'hui, lâchés en pleine liberté, roulant le flot déchaîné de l'information à outrance. Là est la formule nouvelle, l'information. C'est l'information qui, peu à peu, en s'étalant, a transformé le journalisme, tué les grands articles de discussion, tué la critique littéraire, donner chaque jour plus de place aux dépêches, aux nouvelles grandes et petites, aux procès-verbaux des reporters et des interviews. Il s'agit d'être renseigné tout de suite. Est-ce le journal qui a éveillé dans le public cette curiosité croissante? Est-ce le public qui exige du journal cette indiscrétion de plus en plus prompte? Le fait est qu'ils s'enfièvrent l'un l'autre, que la soif de l'un s'exaspère à mesure que l'autre s'efforce, dans son intérêt, de la contenter. Et c'est alors qu'on se demande, devant cette exaltation de la vie publique, s'il y a là un bien ou un mal.
Alors Grégory Genevrier, le journaliste d'aujourd'hui, il en pense quoi? Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal?
C'est une vaste question. Je pense que d'abord, l'enjeu aujourd'hui pour nous journalistes, c'est d'évoluer en même temps que la société. Ça, c'est une grande question. On voit ça, par exemple, sur les canaux de diffusion. Aujourd'hui, on n'est pas assez présent sur certains réseaux sociaux. Il y a toujours un temps de latence entre l'évolution de la société, l'évolution des jeunes et notre évolution à nous. Sur le fait que l'information doit maintenant être publiée maintenant dans la minute, être consultée tout de suite, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça a fait du mal et ça continue de faire du mal à notre profession. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus en attente d'avoir du recul, de prendre le temps d'avoir de l'information. Je pense que le succès notamment de certains médias qui proposent des formats longs montre qu'il y a un besoin, je ne sais pas si c'est de retour en arrière, mais en tout cas de se poser, d'ingérer l'information, d'avoir du recul, d'avoir du débat, d'avoir une information complète et non plus d'avoir une dépêche avec deux phrases où au final on n'a pas l'enjeu, on n'a pas le contexte, on ne comprend pas grand-chose. Mais le problème, c'est que les médias s'accélèrent, et c'est une espèce de course à l'échalote où il faut sortir l'information en premier. Alors nous, on a de la chance dans le fact-checking, je parle pour moi et la cellule InfoVérif de RFI, on n'est pas du tout là-dedans. On a la chance de se dire, d'abord, on n'a pas d'obligation de production. C'est-à-dire que si on estime qu'il n'y a pas de fausses informations qui méritent d'être traitées aujourd'hui, demain et après-demain, parce qu'elles ne font pas suffisamment de vues et on ne veut pas leur donner de la visibilité, parce que c'est de la petite désinformation, entre guillemets, ou alors que c'est plus de l'ironique de la désinformation, eh ben on traite pas. Ça, c'est un avantage que n'ont pas les autres journalistes. Un journaliste qui va travailler le lundi, il ne peut pas se permettre de dire « j'ai pas sorti d'information parce que j'estime que ça n'en valait pas la peine ». Il va être obligé de produire, disons, à la chaîne. Donc nous, on a cette chance-là. Ensuite, sur la question de la défiance, je pense quand même que l'information continue, perpétuelle, qui entraîne du coup à faire des erreurs aussi, encourage cette montée de défiance envers les journalistes qu'on a aujourd'hui. Et je pense quand même que le plus grand fléau reste les chaînes d'information en continu où on est obligé de brasser la même information parfois durant plusieurs heures parce que tout simplement il n'y a pas de poisson frais, entre guillemets. Et ça pousse à... Au final, on en oublie l'information et on va plutôt débattre de tout ce qu'il y a autour de l'information plutôt que des faits eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est un petit peu le mal de notre société médiatique aujourd'hui, d'où l'importance de prendre le temps, d'expliquer quels sont les faits. On peut en débattre, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de rappeler aussi comment se construit une information. Et peut-être que c'est comme ça qu'on gagnera ce combat contre la défiance qui monte aujourd'hui contre les médias en France, mais pas que, partout dans le monde.
Ok, bah pour continuer, pour poursuivre ces réflexions, évidemment, on incite à l'écoute de votre émission Les Dessous de l'Infox sur RFI. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette émission des Temps électriques. J'ai reçu aujourd'hui Grégory Genevrier, journaliste sur RFI pour l'émission Les Dessous de l'Infox, et Ilana Soskin, avocate au barreau de Paris à la Cour pénale internationale, enseignante en droit de la presse. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique « Temps électriques ». Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léobardo Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.